Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, on est ensemble jusqu'à 19h. En première ligne, sur la question sociale, nous sommes également les témoins de profondes mutations qui affectent la société. C'est là le dernier argument affiché dans cette tribune signée de 8 présidents de conseils départementaux, tribune publiée dans le JDD, il y a une semaine et dans laquelle ces élus locaux expliquent leur choix d'expérimenter dans leur département la mise en place du revenu universel. En première ligne, disent ces élus, et donc observateurs privilégiés des spécificités de leur territoire. Trop de réformes sont élaborées hors sol et tombe d'en haut sans avoir jamais été confronté avec le réel, peut-on encore lire dans cette tribune. On peut surtout lire entre ces lignes comme un appel à plus de confiance entre l'État et ses collectivités, une demande que ces dernières ont par ailleurs formulée le 28 septembre dernier lors du Congrès des régions. Alors, dans un contexte où l'État dit vouloir encourager l'innovation, moderniser l'administration et annonce dans le même temps une suppression de moyens qui étaient alloués à ces mêmes régions, comment les collectivités locales peuvent-elles s'emparer davantage de leur droit à l'expérimentation inscrit dans la Constitution depuis 2003. En d'autres termes, l'État peut-il miser sur ses collectivités locales ? C'est la question que nous nous posons ce soir avec trois invités. Laurence Lemouzy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice scientifique de l'Institut de la gouvernance territoriale et vous êtes également rédactrice en chef de la revue Pouvoirs locaux, dont le dernier numéro vient de sortir avec un titre qui n'est pas sans lien avec l'émission de ce soir, Aménagement du territoire et management des territoires. Avec vous autour de la table, Aki Moural, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes adjoint à la maire de Lille, membre du Conseil national du numérique et du comité France Très Haut Débit et vous avez rendu en 2015 un rapport intitulé « L'innovation au pouvoir pour une action publique réinventée au service des territoires ». Ce rapport, vous l'avez remis à l'époque à l'ancienne ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marie-Lise Lebranchu. On va bien sûr parler du contenu de ce rapport au cours de cette émission. Et enfin, notre troisième invité figure dans ce rapport d'ailleurs, c'est Patrick Valentin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'initiateur et le directeur bénévole de l'expérimentation territoriale Territoire zéro chômeur, projet de lutte contre le chômage de longue durée expérimenté dans une dizaine de territoires jusqu'à maintenant. On y revient en détail dans un instant. Avant cela, j'aimerais qu'on reparle du discours de clôture du 100e congrès des maires d'Emmanuel Macron il y a une dizaine de jours. Emmanuel Macron qui a dit vouloir laisser les acteurs locaux adapter la loi à leur réalité locale. Ce qui fait écho en un sens à ces mots prononcés dans un discours l'été dernier lors de la conférence des territoires où il disait vouloir lever l'obligation de généraliser une expérimentation locale à tout le territoire, comme c'est actuellement le cas aujourd'hui. Une collectivité expérimente une mesure au niveau local pendant 2 ans, et puis au bout de 2 ans, on abandonne l'expérience ou on la généralise selon son échec ou son succès supposé. Alors, est-ce que cette volonté de lever cette obligation est significative aujourd'hui pour les collectivités locales ? Est-ce que c'est ça qui va faire qu'elles vont recourir plus à l'expérimentation, Laurence Lemouzy ?
L'expérimentation est souhaitée par les collectivités territoriales et ce qu'a souligné le président de la République, effectivement, leur a posé et leur pose problème, ce qui fait qu'il y a eu, de ce point de vue-là, peu d'expérimentation souhaitée. Pour bien comprendre ce dont on parle, depuis le 2003, dans la Constitution, ce principe est inscrit. Il a fait aussi l'objet d'une loi organique qui habilite, en fait, le Parlement. Le Parlement doit voter une loi sur un objet, sur une politique publique qui devrait faire l'objet d'une expérimentation. Ensuite, des collectivités territoriales se portent candidates. Le gouvernement approuve la liste des candidates. L'expérimentation se met en œuvre et là, au bout d'un certain temps, elle est évaluée par un rapport. Le Parlement constate si elle a été réussie, si elle ne l'a pas été, elle pourrait être abandonnée. Mais c'est là que le bât blesse. Si elle a réussi, elle est uniformément appliquée à l'ensemble du territoire. Et c'est ce principe-là sur lequel le président de la République insiste. Il s'agirait de la différencier, c'est-à-dire de la maintenir dans le territoire et dans les territoires qui l'ont expérimenté, sans l'étendre. Et d'ailleurs, on rejoint l'expérimentation est une facette de la différenciation territoriale qui a égrené l'ensemble des discours que vous avez cités. Comment on peut ne pas administrer en fait le même remède à des territoires qui ne souffrent pas des mêmes maux, MAU. UX. Et par l'expérimentation, on va procéder effectivement par tâtonnement. Donc ça pourrait la fluidifier. Maintenant, il n'en reste pas moins qu'elle est à la main du législateur et quelque part de l'État central. N'imaginons pas encore que demain, des collectivités vont lever la main en disant que j'expérimente ceci dans mon coin. Elles le voudraient certainement, mais nous n'en sommes pas là.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, Laurence Lemoudi. Déjà, une première chose, donc, vous avez insisté sur la nécessité d'adapter une expérimentation à la spécificité d'un territoire. Et là, je me tourne vers vous, Patrick Valentin, qui avait initié Territoire Zéro Chômeur dans une dizaine de territoires, allant de la métropole à l'arrondissement de grandes villes, en passant par la commune. Qu'est-ce que ça supposerait, cette non-obligation de généralisation de cette expérimentation-là? Comment on peut adapter un projet aussi complexe, et vous allez nous l'expliquer, comme Territoire Zéro Chômeur, à l'ensemble du territoire, tout en prenant en compte la spécificité de chaque territoire où il s'appliquerait?
Alors là, je rejoins ce qui vient d'être dit complètement. C'est-à-dire que notre projet est justement de ne pas proposer une généralisation. Nous avons essayé de nous battre contre ce mot dans la loi elle-même. Car la notion de généralisation est une sorte de contradiction avec l'initiative expérimentale. Et je ne vais pas redire ce que vous venez de dire, parce que c'est exactement ce que nous pensons et ce que nous mettons en œuvre. Ce que nous voulons, c'est ultérieurement, après une deuxième expérimentation, car la première ne nous suffira pas, nous voulons pouvoir obtenir un droit d'option. C'est très différent. Un droit d'option,
ça laisse... l'objet d'une loi, d'ailleurs. Qui va faire l'objet d'une loi après un bilan que vous présenterez dans un an et demi.
Nous souhaitons une deuxième loi d'expérimentation, parce que je pourrais vous en dire un peu plus là-dessus, si vous voulez, sur le plan concret. Et à l'issue de cette deuxième loi d'expérimentation sur un plus grand nombre de départements, l'ensemble de l'évaluation est légitime la chose, ce que nous voulons, c'est un droit d'option. Autrement dit, que les territoires qui se sentent prêts ou qui désirent être prêts puissent adapter et adopter les deux le processus, le projet de société que nous, parce que nous ne c'est pas un dispositif que nous mettons,
c'est bien
en
un projet,
c'est un projet de société. Donc un projet de société, ça se par définition, ça doit se faire dans la société concernée.
Avant d'entendre Aki Mourel sur la question, je précise juste à nos auditeurs qui ne seraient pas au courant que le projet Territoire Zéro Chômeur, c'est un projet de lutte contre le chômage de longue durée, et vous partez du principe que la création d'emplois ne doit pas dépendre de la croissance d'un territoire, mais des besoins spécifiques d'un territoire. Allez-y, oui, corrigez-moi.
Vous corrigez, ce que vous dites est tout à fait juste, mais je veux bien préciser. C'est-à-dire que nous renversons un certain nombre de propositions qui sont considérées comme acquises, alors qu'elles ne nous semblent pas toujours légitimes. Et la proposition que nous renversons massivement, c'est celle qui consisterait à penser que l'emploi est entièrement à la disposition de la décision économique. Nous pensons que l'emploi est une décision politique. Et donc, à partir de là, nous disons, évidemment, nous faisons le lien avec l'économie en disant le coût de la privation d'emploi est au moins aussi élevé, peut-être beaucoup plus, que l'emploi lui-même.
15 milliards par an, c'est ça?
Oui, alors 40 milliards. Les chiffres, alors nous avons fait une étude très précise, mais très originale, c'est-à-dire que nous avons pris tous les budgets de l'État et des collectivités locales pour montrer ce que deviendraient ces budgets. Donc c'est une étude un peu hypothèse. Ce que deviendraient ces budgets dans l'hypothèse où la privation d'emploi serait supprimée. Alors évidemment, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, il y aurait des économies absolument massives de l'ordre de 40 milliards. Mais au-delà de cet aspect chiffré qui est un problème, c'est le problème du lien entre la volonté politique et puis l'économie, nous constatons que tant qu'il y a des personnes disponibles, du travail utile à faire sur les territoires, et sachant quel est le niveau de notre richesse, la privation d'emploi d'un citoyen aujourd'hui nous semble inadmissible, politiquement inadmissible. Et c'est cela.
Donc vous proposez la création d'un fonds qui rassemblerait des minima sociaux, des cotisations.
Alors oui, pour la première expérimentation, voilà. Nous avons effectivement obtenu...
Et qui permettrait la création d'un CDI citoyen.
Voilà, la création d'un fonds qui finance ces CDI. Et ces entreprises à but d'emploi. Mais ça, c'est la première étape. Nous sommes déjà en train de nous projeter sur une deuxième étape où il faudra organiser un peu plus largement les choses, mais c'est le même sujet. L'emploi doit être un produit de première nécessité sociale et il doit être pensé comme tel. Et donc, c'est ça notre expérimentation.
Pour en revenir à notre question, l'État peut-il miser sur ces collectivités locales en termes d'expérimentation? Le président de la République veut abandonner cette obligation de généralisation. On n'expérimente plus une mesure en pensant à son avenir national. Qu'est-ce que ça implique, selon vous, Hakim Oural, en termes de mise en place, de fonctionnement et de vision de l'innovation?
Oui, d'abord, sur tout ce que j'ai pu entendre, évidemment, j'y souscris complètement, d'autant que sur le travail qu'a mené à la TD Carmonde, qui était pertinent, qui répondait à un besoin, on a essayé de le présenter, de le mettre en exergue dans le rapport Innovation au pouvoir. Rappelez d'abord le contexte de la remise de ce rapport, c'était la loi NOTRe, où on avait un besoin, c'est de se dire comment on peut réenchanter la démocratie locale, la démocratie en général, dans un monde de défiance.
En 2015, oui.
En 2015. Mmh. Un monde de défiance aux politiques, de défiance au système. Et le sujet, c'est de dire de quelle manière on remet le citoyen comme prescripteur de l'action publique et de quelle manière il se sent propriétaire de cette action publique. Et donc, on a eu un gros travail au travers de ce sujet pour adapter ce qui était le travail de la loi NOTRe à la réalité du territoire. Et dans ce rapport, on a fait très attention d'être extrêmement précis et concret sur ce qu'était la richesse des territoires dans leur diversité, mais aussi dans ce qu'elles apportent au niveau national, à la France, comme image positive de ce qu'elle renvoyait au niveau local. Et je crois que ça a marché, puisque l'ensemble de projets tels que le projet de la Télécarmonde ont été vraiment mis en lumière, pas seulement grâce au rapport, mais à leur qualité, mais on a mis en lumière la richesse de notre pays. Donc maintenant, effectivement, la volonté est là, la volonté politique est là, et on peut en être très heureux. Simplement, le droit à l'expérimentation, doit être un droit à expérimentation réel pour les collectivités locales. Donc, à renvoyer effectivement à des réalités locales. Paris n'étant pas la France, la plupart des actions qui peuvent être menées dans la capitale n'auront pas de réalité en milieu maritime, en milieu rural ou montagne, tel qu'on peut le voir dans les zones hyper-urbanisées. Et donc, le sujet, c'est de quelle manière... Se posant la question de la rupture d'égalité des droits que le Conseil d'État nous renvoie régulièrement, de quelle manière on invente une action publique particulière avec un pas de côté. Et donc, c'était le rapport innovation au pouvoir. Et donc, ça veut dire aussi qu'on se pose la question de la décentralisation. Et je crois qu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui, on a eu le rapport Raffarin et la commission Raffarin qui ont rendu des conclusions. Je pense qu'on n'a pas été assez loin dans la capacité des territoires à disposer de leur destin. Et donc, ça pose la question de la gouvernance territoriale, mais ça pose aussi les moyens qu'on y met quand on voit parfois un certain désengagement de l'État.
Quand vous dites qu'on n'a pas été assez loin dans la possibilité qu'ont les collectivités locales à disposer de leur destin, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Laurence Lemouzy?
Alors, je suis d'accord et à la fois pas tout à fait d'accord, si vous me permettez. Je pense qu'en fait, nous ne sommes plus aujourd'hui dans une étape de la décentralisation. On est passé à autre chose. De notre point de vue, je pense qu'on est dans une étape de gouvernance territoriale. Et l'expérimentation, c'est une bonne méthode de gouvernance territoriale. On va oublier les normes momentanément, on va oublier dans un territoire tout ce qui peut entraver l'action publique et on va essayer surtout de travailler ensemble. L'État, les collectivités territoriales, le secteur non marchand, les entreprises, la société civile qui est en demande de participer à les délibérations publiques et politiques. Et je crois qu'en fait, ce que nous dit le fait de remettre dans les discours la notion d'expérimentation, c'est que la gouvernance, elle est devenue une dimension normale de l'action publique. public. On ne peut plus faire seul. Les questions sont complexes. Ce n'est pas l'État ni les collectivités qui vont y répondre chacun de leur côté, mais ensemble. Et de ce point de vue-là, si on expérimente, c'est pour éviter d'avoir une loi qui soit d'emblée applicable à tout le monde, qui peut-être ne va pas donner des bons résultats, va coûter cher. Donc alléger le poids des normes, tester, procéder par tâtonnement. Or c'est vrai que dans notre culture française administrative, on n'aime pas procéder par tâtonnement. On identifie un problème, on veut le régler uniformément sur l'ensemble du territoire. Les États de type, un État de type fédéral, lui, va procéder par tâtonnement et l'État n'interviendra que lorsqu'il y aura vraiment défaillance et nécessité d'intervenir. Et je crois que différenciation, expérimentation, en termes de contenu de politique publique, je ne parle pas en termes d'institutions, vont sans doute permettre de redonner du corps à la notion de subsidiarité. Cette subsidiarité, c'est le fait que du terrain, de façon ascendante, on va construire de l'intérêt général. Et on va construire de l'intérêt général en associant aussi effectivement les citoyens.
Alors vous avez l'air tous d'accord sur les limites aussi aujourd'hui, sur le fait qu'elle peut poser problème cette expérimentation territoriale. Depuis son inscription dans la Constitution en 2003, elle a été quand même peu utilisée par les collectivités locales. Qu'est-ce qui dissuade aujourd'hui les collectivités d'expérimenter à Kimoral ?
C'est la lourdeur de la procédure. Une association comme ATD Quart-Monde, effectivement, a cette puissance, non seulement territoriale, mais aussi nationale, pour pouvoir procéder à cette relation avec l'État, travailler à la préparation avec les parlements. Évidemment, je pense qu'en 2003, quand M. Raffarin était Premier ministre, on a raté le moment de simplifier les choses et d'avoir un droit à expérimentation qui soit un droit à l'essai-erreur, on parlait de tâtonnement à l'instant, un vrai droit à l'essai-erreur comme on l'évoque dans le rapport. Parce que peut-être que c'est pas une étape de la décentralisation, sauf que le sujet en réalité avec la décentralisation, c'est le contrat que passe l'État avec les collectivités. C'est ça la décentralisation. Et on le voit dans l'histoire de notre République, à chaque fois que l'État s'est senti en confiance et s'est senti fort, a toujours réussi à décentraliser. Et donc je crois que ce qu'on voit comme message d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est une volonté de continuer la décentralisation, qu'on va pas appeler peut-être comme ça, mais qui sera une étape pour donner plus de pouvoir au territoire et donc aux citoyens prescripteurs.
Patrick Valentin.
Si vous permettez.
Oui, allez-y.
Je relève la question à partir de l'égalité des droits. Parce que, voyez-vous, moi, j'ai été très frappé en rencontrant toutes ces grandes personnes nationales, n'est-ce pas, de voir le respect qu'elles avaient.
Les parlementaires, vous voulez dire?
Oui, tout ce que j'appelle les grandes personnes, c'est-à-dire tous les gens qui sont très haut placés, voyez-vous. Moi, je suis un petit paysan angevin, et donc, quand je rencontre des grandes personnes, je suis toujours impressionné de voir, si vous voulez, cette espèce de sentiment que l'on a quand on est, comme c'est notre cas à TD Quart-Monde, on est au contact des personnes les plus modestes de la société, les plus pauvres, les moins capables de se défendre. Et alors, quand on nous parle de l'égalité des droits, nous sommes ulcérés. Parce que nous savons que l'égalité des droits, c'est une vaste foutaise. Ça n'est pas vrai. Moi, mes amis dorment dehors. Ils sont dans la rue. Et il n'y a pas de solution parce que c'est trop compliqué. Alors l'égalité des droits qu'on m'a rabattu pour m'empêcher d'avoir une loi d'expérimentation, parce que, comprenez, il faut que ce soit le même droit partout, ça nous fait mal au ventre. Et il faut trouver d'autres concepts pour que l'égalité soit une égalité, évidemment, de citoyenneté, nous sommes tous les citoyens du même pays, etc., mais que les droits soient vécus sur le terrain pour que tout le monde ait accès aux droits.
Et en l'occurrence, le droit au travail.
Notre plus grand travail pour nous à TD, c'est l'accès aux droits.
Vous parliez des grandes personnes, Patrick Valentin. Justement, vos relations avec les parlementaires, il faut quand même qu'on en dise un mot aux auditeurs pour savoir comment cette expérimentation a pu être mise en place dans plusieurs territoires. Vous avez proposé donc cette idée, vous en avez parlé au député socialiste Laurent Grand-Guillaume qui a porté une loi qui vous a permis un transfert de subventions. et qui vous a permis donc d'expérimenter les territoires zéro chômeur sur plusieurs territoires. Est-ce que ça a été long? Akim Mourad parlait de temps long, de lourdeur. Est-ce que ça a été votre principale difficulté à vous?
Pas la principale. Nous avions la chance, le mouvement Athée des Quart-Mondes étant effectivement, comme il l'a dit, extrêmement pertinent et percutant sur ces sujets-là, nous avons eu la chance de pouvoir avancer. Et les quatre mousquetaires que nous sommes, Louis Gallois, enfin je veux dire Laurent Grandguillaume, Michel de Virville et Louis Gallois et moi, nous avons pu avancer. Nous l'avons payé très cher. C'est-à-dire que nous nous sommes heurtés jour après jour. C'est pour ça que je disais, c'est vraiment dans la tête, c'est vraiment dans l'organisation même extrêmement pyramidale de notre société. C'est-à-dire que nous étions des trouble-fêtes, des trublions. Nous demandions des choses qui ne se font pas. Vous voyez, c'est même pas de la mauvaise volonté. C'est simplement qu'on était, on n'était pas bien élevés, quoi. On faisait pas ce qu'il faut. C'est ça. Et on était vécus comme des gens mal élevés. Alors que.
Et donc, comment s'est mise en place cette expérimentation concrètement?
Eh bien, donc on s'est battu entre la loi.
Ça a duré 2 ans, travail.
Entre la rencontre de Laurent Grandguillaume, le député qui a bien voulu porter, et la loi, il s'est effectivement passé à peu près 2 ans. Nous avons eu la chance de pouvoir réussir parce que des territoires sont venus à Paris par dizaines avec leurs écharpes tricolores et avec les demandeurs d'emploi eux-mêmes. Donc ça a été très important. Ça a été une manifestation des territoires. Ensuite, entre la loi et le décret, alors moi j'ai piétiné pendant 6 mois. C'est impressionnant. On m'a dit que c'était rapide. J'étais stupéfié que l'on appelle ça rapide, entre le mois de mars et le mois de juillet. Et ensuite, entre le mois de juillet et le début, il a fallu encore 6 mois. Donc, si vous voulez, et tout ça pour des affaires que moi j'aurais pu traiter en quelques jours, on va pas dire quelques minutes, mais vous voyez, vraiment des affaires d'une simplicité extrême. Et ça, il suffisait de dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tout était clair. Donc c'est impressionnant de voir que l'immense machine, si vous voulez, est obligée de se mettre en marche. Et dans la tête de chacun, il faut que ça passe le message. Ah oui, ils font pas comme les autres. Pourquoi, comment, etc.
Et Athée des Quart-Mondes, il s'agit là d'un grand organisme. Et Akim Mourad, vous le soulignez dans le rapport que vous avez rédigé, qui bénéficie d'une force de frappe, qui est d'une force de lobbying, qui a un budget. Alors, lorsqu'il s'agit d'un organisme un peu moins connu, un peu moins fort que le vôtre, l'expérimentation locale devient tout de suite beaucoup plus compliquée et encore plus longue. Oui.
Alors, il y a quand même une consolation dans tout cela, c'est que nous avons agi pour faire bouger aussi les mentalités. Et donc, on peut espérer que ça ira mieux.
Laurence Lemouzi.
Oui, en même temps, on parle de deux choses peut-être différentes. Jusque-là, on a parlé essentiellement, sauf avec monsieur, des expériences ou des expérimentations provoquées. C'est-à-dire, elles viennent du haut, ce sont des expérimentations lourdes. Exemple, lorsqu'on a expérimenté petit à petit la mise en place de ce qui allait devenir le revenu minimum d'insertion, le RMI, ou la décentralisation des transports ferroviaires régionaux. Ça, c'est des politiques publiques lourdes. Mais il y a aussi des expériences qui sont vécues. Et si je reprends votre question, est-ce que l'État peut miser sur les collectivités territoriales? En termes d'expérience vécue, oui. Parce qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales, c'est 70% de l'investissement public et elles innovent, elles mènent des expériences au quotidien. Et les associations aussi, une petite association a bien compris aujourd'hui que pour obtenir des financements, il ne faut pas qu'elle aille voir une collectivité pour lui demander est-ce que je peux avoir une subvention. Si elle lui dit, j'ai envie d'expérimenter avec vous une démarche particulière, inclusive, qui va occuper plusieurs politiques publiques, les collectivités sont en demande. Elles expérimentent beaucoup de choses, elles mutualisent leurs services, elles hybrident leur politique publique, elles font face aussi aussi aux expérimentations qui viennent les troubler. Je donne un exemple. Lorsqu'aujourd'hui, vous avez une entreprise numérique qui s'appelle Blablacar et qui crée et qui expérimente sur le trajet Toulouse-Montauban Blablacar Lines, c'est-à-dire du covoiturage sur de petites distances, c'est un trajet qui va coûter à un citoyen 4 euros, alors que par le train express régional, il est à 10 euros. Donc là, les collectivités vont devoir reprendre la main aussi des expériences à vivre, à créer, parce que sinon elles vont se faire aussi déborder par les expérimentations et les innovations des acteurs du secteur privé, numérique et du secteur associatif. Donc on est en pleine hybridation. Et les collectivités peuvent, parce qu'elles sont réactives, parce qu'elles sont sur le terrain, parce qu'elles sont dans le réel, comme vous dites, être des actrices très importantes.
Mais comment aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'on peut alléger la procédure et réduire ce temps politique qui dissuade certaines collectivités locales de se lancer dans des expérimentations ? Aki Mourale.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un sujet de changement de posture. On va de l'État qui doit être, et je pense que c'est l'esprit aujourd'hui que je vois partout, c'est l'État doit être moins un censeur qu'un animateur, qu'un catalyseur des bonnes pratiques au niveau national. Quand on revient à la question de l'expérimentation, je pense qu'il nous faut construire des territoires de projet. Ça veut dire que sur le territoire, c'est ce qu'on évoquait autour de la gouvernance territoriale, sur les territoires, on a vraiment une contractualisation sur des objectifs que les élus doivent partager, parce que c'est quand même eux, et on l'a évoqué sur l'investissement local, qui est quand même prépondérant par les collectivités locales. Je pense que c'est dans le cadre de ces territoires de projet, de ces contrats, qu'on doit définir les critères qui nous permettent d'aller plus vite pour des acteurs du secteur privé, associatif ou autre, qui pourraient être fer de lance de projets que les territoires souhaitent lancer. Je pense que c'est comme ça qu'on démarrera. Il faut, et peut-être que demain, ces bonnes pratiques pourraient être diffusées au niveau national en capitalisant les bonnes pratiques.
France Culture, du grain à moudre, Émilie Chaudet.
Expérimentation, l'État peut-il miser sur ces collectivités ? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre avec Aki Mourale, adjoint à la maire de Lille, Laurence Lemouzy, directrice scientifique de l'Institut de la gouvernance territoriale, et Patrick Valentin, initiateur et directeur bénévole de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur. Alors j'aimerais qu'on aborde cette question de la confiance qui est souvent présente dans les discours politiques, et de confiance et de défiance. Les présidents de conseils régionaux ont appris à la veille de la présentation du budget 2018, la suppression d'un fonds de soutien au développement de 450 millions d'euros qui leur étaient alloués au titre de l'élargissement de leurs compétences économiques. Il y a eu aussi la loi de programmation des finances publiques qui compte sur des économies de 13 milliards d'euros sur 5 ans, et ça concerne 319 collectivités de plus de 500 000 habitants. Alors, dans les faits, on peut dire aux collectivités territoriales que l'on veut leur attribuer plus de pouvoir et plus de capacité à s'emparer de l'expérimentation, mais cela devrait d'abord passer par les moyens alloués. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette suppression de fonds un message contradictoire à Aki Mourale ?
C'est totalement contradictoire, bien évidemment. On expérimente pour innover. On expérimente pour faire le pas de côté qui permette de créer une alchimie particulière sur le territoire, qui permette une résilience, notamment dans les territoires les plus en difficulté. Quand les régions qui ont le rôle du développement local avec les métropoles ne peuvent plus assumer cette compétence, on met en grande difficulté de manière notable l'ensemble des dispositifs qui sont sur ces territoires. Donc je pense que là, il y a une contradiction que j'imagine le président va lever très rapidement pour faire en sorte que les moteurs que sont les collectivités locales qui font des projets, des ambitions, une réalité grâce à leur action sur le terrain, doivent avoir les moyens de ces ambitions-là et pour accompagner l'État. Je pense qu'il faut rappeler que les collectivités sont les membres d'une équipe nationale qui vise à faire de la France un pays meilleur. Donc il ne faut pas l'oublier et il faut leur donner les moyens.
Laurence Lemouzy, entre l'État et les régions, quand je parle de cette relation de défiance, les régions, dans cette tribune que certains présidents de régions ont publiée dans Le Monde, redoutent que l'État ne se défausse sur elles pour un certain nombre de missions sans leur allouer les moyens correspondants. L'État, de l'autre côté, voit d'un mauvais œil ces collectivités conquérir un pouvoir croissant. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans cette tribune. Et l'administration peine toujours à se départir d'une culture jacobine. Ça, c'est pas nouveau non plus. Qu'est-ce que ça dit de cette relation à l'expérimentation aujourd'hui ? Et comment est-ce qu'on peut dissiper ce climat de défiance, concrètement ?
Vous parliez justement de changement de posture. On est dans la nécessité de changer de posture. Alors, il faut dire qu'il y a un poids de l'histoire qui est fort. Longtemps, les collectivités ont été prises, on pourrait dire, comme des prestataires de services par l'État. Hein, on leur a délégué des compétences parce qu'on n'avait plus les moyens, les moyens financiers ou humains de les faire. On a donné des crédits tout en sachant que ces crédits à terme ne seraient pas suffisants pour remplir ladite compétence, parce que ça allait exploser en termes de demande. Donc il faut vraiment sortir de cette logique de prestation de services qui ont marqué et qui a marqué l'esprit des collectivités territoriales. Ça, c'est la première chose. Donc que l'État arrête aussi ce discours-là et que les collectivités sortent du rapport aussi un peu adolescent qu'elles entretiennent avec l'État. Je t'aime moi non plus, donne-moi mon indépendance, mais quand ça ne va pas, je viens m'abriter parce que sous ton ombre. Il y a ce changement-là. Il va se faire, il y a quelques claquements de porte, il y a quelques grincements. Effectivement, le fait d'assainir ce qu'on appelle la fiscalité locale, pourquoi pas d'imaginer des répartitions de l'impôt national vers les collectivités serait plus simple, parce qu'on ne peut pas demander 70% de l'investissement public et serrer tous les boulons et fermer tous les robinets pour les collectivités. Il y a une grande maturité politique des régions, des départements, des villes et de l'État. C'est l'idée d'être en confiance, c'est-à-dire de créer une humeur, de se faire confiance. On en est là, mais je crois qu'il faut effectivement que les collectivités sortent du récit de la discorde et s'entendent, arrêtent de raisonner par catégorie, comme si elles avaient chacun leur fonds de commerce à défendre. Elles sont dans une même galère, si je crois que c'est même le terme qu'avait énoncé le président de la République à l'issue de son discours lors de la conférence nationale des territoires. Elles sont dans le même bateau, l'intérêt général de la France.
Patrick Valentin, de votre expérience d'initiateur du projet Territoire Zéro Chômeur, est-ce que vous avez, vous, ressenti ce climat de défiance et cette relation un peu problématique quand Laurence Lemousier parle par exemple de posture adolescente des collectivités locales par rapport à l'État? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle?
Oui. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Peut-être, quand même, peut-on souligner pour l'expérimentation au territoire zéro chômeur de longue durée à quel point la situation est paradoxale. En effet, on est devant une responsabilité qui est l'emploi, qui est théoriquement entièrement portée par l'État, et dont veulent se saisir les territoires, aussi bien les communes que les départements et les régions. Donc on est vraiment dans une situation particulièrement paradoxale. Et donc, ce que vous venez de dire, est effectivement, prend beaucoup de relief dans notre situation.
En quel sens ?
C'est probablement, c'est d'ailleurs en cela que cette expérience est passionnante, c'est que c'est probablement... pour arriver à maturité, c'est-à-dire pour quitter ce que Florence Lemousy appelait l'esprit adolescent, que les départements et les régions vont nous soutenir massivement pour que nous continuions une deuxième loi et un droit d'option. Parce qu'ils sentent là qu'il y a peut-être un levier central où prendre ses responsabilités. L'emploi, c'est quand même au cœur de la vie des sociétés. Hein.
Aki Mourel, dans votre rapport, vous pointez...
Je vais peut-être répondre réagir sur le côté adolescent. Évidemment, je ne partage pas, pour la simple bonne raison. Moi, je suis adjoint d'une maire de Lille, Martine Aubry, que vous connaissez, qui se bat au quotidien pour faire en sorte d'amener sur le territoire la mixité sociale, la mixité dans les logements, construire plus, parce qu'il y a des vrais besoins, faire en sorte qu'on soit dans une relation favorable avec les entreprises pour qu'ils créent de l'emploi. Le sujet, c'est au moment où on retire les moyens de la taxe d'habitation notamment, qu'est-ce qu'on veut faire par là? Je veux dire, à un moment donné, je le redis, c'est moins un problème d'adolescence que de mise sous tutelle par les moyens qui sont là ou qui ne sont pas là.
Et vous parliez du coup dans votre rapport d'une tendance peut-être à ce que les citoyens, les entreprises se saisissent d'expérimentations, mais sans ces fonds alloués par l'État, est-ce qu'on ne s'acheminerait pas, et je vais peut-être un peu loin, vous allez me dire, vers une future externalisation de l'expérimentation? Est-ce que c'est un chemin qui est en train de prendre la société les entreprises, les collectivités.
Dans le rapport, on a théorisé la question des 4 P. Le pacte privé-public-population, considérant qu'aujourd'hui, dans, à l'ère du numérique, là où la désintermédiation est forte, là où la relation au service public, au service privé, avec l'usager, les choses sont extrêmement rapprochées, à cette ère-là, on a sans aucun doute, parfois, besoin de regarder qui sera le meilleur dans le cadre de la diffusion du service public ou service territorial. Le sujet aujourd'hui, il est de la posture des élus, des pouvoirs publics sur les territoires. Je rappelle souvent que, je donne une image, c'est que aujourd'hui, à l'ère du numérique, on est dans la même situation que le prof avec ses élèves. Le prof, il y a quelques années, quelques décennies, apportait un savoir, la connaissance. Il était le seul détenteur de cette connaissance face à des élèves aujourd'hui qui ont un smartphone sur lequel ils peuvent avoir tous les savoirs, toute la connaissance. Le rôle de l'État ou des pouvoirs publics ou des élus, c'est comme le prof aujourd'hui, c'est d'animer l'accès par l'esprit critique de ces savoirs. C'est d'animer une forme de dynamique territoriale qui est souvent liée à la dynamique populaire, à la dynamique de la société. Et donc, le rôle de l'État et des collectivités, c'est de porter des valeurs, porter du sens et d'accompagner des dynamiques qui peuvent être amené par le privé aussi.
Est-ce que l'accompagnement est vraiment au rendez-vous ? C'est une question qu'on peut se poser quand on voit, dans le cadre de la modernisation de l'administration, le CAP 22, Comité Action Publique 22, que le Premier ministre Édouard Philippe a installé le 13 octobre dernier. C'est un comité qui doit rendre un rapport sur la transformation de l'administration. On parle beaucoup de numérisation, de simplification administrative. Et là, en tout cas, sur le papier, il n'est plus question d'expérimentation ni de délégation aux collectivités. Le comité est d'ailleurs présidé par deux acteurs du secteur privé, la secrétaire générale de la société immobilière Nexity et le directeur de Sciences Po Paris. Est-ce qu'on n'aurait pas pu amorcer cette réflexion sur la modernisation de l'administration en incluant les collectivités locales, les acteurs publics ? Laurence Lemouzy.
Dans ce comité, il y a certains représentants d'acteurs publics territoriaux, au premier rang desquels Philippe Laurent, qui est maire de Sceaux, qui est président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et secrétaire général de l'AMF. Donc la dimension territoriale y sera. C'est vrai qu'elle n'est pas très affichée.
Elle n'est pas très affichée.
Elle n'est pas très affichée. C'est un premier pas peut-être vers ce qu'on peut appeler un gouvernement un peu plus ouvert. Il y a l'Open Gouv en matière d'accès des données pour que des entreprises privées puissent innover sur de nouveaux services. On verra ce que donne, mais il a une approche très, très rationnelle, très pragmatique. C'est un peu la gouvernance par les chiffres. Il faut à tout prix faire des économies, trouver est-ce que ça sera vraiment
des propositions de projets d'expérimentation.
Quitte peut-être à abandonner des projets d'expérimentation. Donc on va attendre ce rapport, mais pour le moment c'est plus dans le pragmatisme de micro-mesures que dans des projets véritablement de modernisation de l'action publique. On verra.
Une gouvernance ouverte donc, c'est bien ça ?
Une gouvernance ouverte, oui, une gouvernance qui a compris que la décision, c'était plus une ligne droite, mais que c'était un cercle et qu'il fallait effectivement qu'on s'assoie tous et qu'on parle tous la même langue autour d'une table. C'est pas si évident que ça dans le territoire.
Hakim Mourad, sur cette question, est-ce qu'on s'achemine vers ce mode de gouvernance qui inclut une multitude d'acteurs ?
Moi, j'ai pas de problème pour qu'on optimise les moyens qui sont à disposition sur les territoires pour faire en sorte d'être meilleur. Là, globalement, que le privé soit plus associé, c'est ce qu'on fait tous les jours sur les territoires. On l'a fait sur la French Tech, on l'a fait sur un certain nombre de sujets importants, parce qu'on considère qu'on a une relation naturelle à faire de la valeur, mais aussi de la richesse sur les territoires. Et donc, mais simplement, aujourd'hui, il ne faut pas se tromper de débat. Le débat, c'est comment on crée de la résilience là où on a des grosses difficultés. Tout à l'heure, Télécarbon le rappelait, on a un problème, c'est que on a des gens qui vivent dans des situations extrêmement difficiles dans notre pays. Et donc, c'est là où on doit agir pour que, au fond, dans le cadre de l'égalité territoriale, on se retrouve à avoir l'intérêt général qui revive.
L'État peut miser sur ces collectivités territoriales, vous avez l'air d'accord, mais est-ce que les collectivités territoriales aujourd'hui peuvent miser sur l'État ? C'était une question que vous vouliez poser d'ailleurs, Patrick Valentin.
Oui, je voudrais faire remarquer que ce que nous avons mis en place avec ce que nous appelons les comités locaux, c'est justement une table ronde où se retrouvent aussi bien les administrations de quelque nature qu'elles soient que les demandeurs d'emploi eux-mêmes et les élus. Vous voyez ? Donc on met en place, notre solution expérimentale met en place cette gouvernance circulaire, comme vous disiez, et ouverte, où tous ceux qui veulent dire leur mot au sujet sont invités de droit autour de la table.
On assiste à cette tendance, à une tension, je dirais, entre des collectivités locales qui réclament plus de confiance et donc plus de liberté dans leur volonté d'expérimentation et à la fois une volonté d'encadrement. Ça rejoint peut-être ce que vous désignez il y a quelques minutes, Laurence Lemouzy, par une posture adolescente. Et est-ce que c'est une bonne manière de voir les choses, justement, cette tension entre ne nous abandonnez pas trop vite et en même temps laissez-nous expérimenter ?
C'est un bon résumé. Peut-être qu'il faut qu'on comprenne que la décentralisation, ça a avant tout été en France une réforme de l'État. Ça n'a pas été un mouvement politique, ça a surtout été un mouvement d'organisation différente administrative. Peut-être que ça va devenir politique. Si le citoyen y est davantage associé, ça sera sûrement le cas et les deux s'entendront à merveille.
Excellent mot de conclusion. Merci à vous trois d'avoir réfléchi à cette question avec nous. Akim Oural, on peut, pour les auditrices et les auditeurs que ça intéresse, retrouver votre rapport L'innovation au pouvoir en ligne dans son intégralité. Laurence Lemouzy, on rappelle que la revue dont vous êtes rédactrice en chef, Pouvoirs locaux, vient de sortir et son dernier numéro est disponible en librairie. Patrick Valentin, initiateur du projet d'expérimentation Territoire Zéro Chômeur, vous avez aussi une bibliographie sur le sujet et pas des moindres sur la question du chômage dont on pourra retrouver
les liens. Un livre va sortir en janvier, qui s'intitulera « Le droit d'obtenir un emploi ».
Très bien. Un grand merci à toute l'équipe du Grain à Moudre, Virginie Leduo, Fanny Richet, Antoine Tricot, Antoine Dulster et Eva Pellerin, Véronique Villa à la réalisation et ce soir à la prise de son, c'était Bruno Gagnard-Fontani.